Europe Matin, le 6-9, Mathieu Charrier.
Et je reçois maintenant l'astronaute Jean-François Clairvoy. Bonjour.
Bonjour.
On avait envie de prendre un peu de hauteur, de regarder les étoiles en ce jour de Noël avec vous. Alors d'abord, on vient de vivre une belle année sur le plan de l'activité spatiale. Il y a eu le lancement de 5 vaisseaux, il y a Solar Orbiter qui nous a fourni de nouvelles images incroyables du Soleil. Comment vous qualifieriez cette année 2020?
2020 dans le spatial finalement a été un peu impacté par la pandémie, mais peu en termes des programmes de lancement. Les astronautes sont partis à l'heure, les sondes interplanétaires et les vaisseaux spatiaux scientifiques sont partis aussi à peu près à l'heure, mais sans invité, sans personne pour assister au spectacle de lancement de fusée qui reste toujours très impressionnant.
C'était quoi l'événement le plus marquant de l'année selon vous?
Celui auquel je pense, c'est le lancement de Perseverance, de la sonde martienne américaine avec un fameux instrument français Supercam dont nous sommes très fiers, et en même temps des sondes martiennes aussi des Émirats Arabes Unis et de la Chine qui va poser aussi un rover. Donc on attend l'hiver et le printemps 2021 l'arrivée de ces sondes et notamment le rover américain qui va déposer un hélicoptère. Donc pour la première fois, un hélicoptère va voler dans l'atmosphère martienne.
C'est ça maintenant l'objectif? La Lune, on est blasé, on va sur Mars?
Non. Alors il y a deux choses différentes. La Lune, on y est intéressé comme pour les vols habités au-delà de l'orbite basse terrestre, pour apprendre d'abord sur la Lune, mais aussi répéter les opérations que l'on fera un jour sur Mars. Voilà, la Lune est un terrain de préparation, sachant que sur la Lune, on peut toujours revenir rapidement sur Terre, on converse avec la Terre, on sait relativement facilement relever les équipages, ravitailler. Ce ne sera pas le cas pour les premières missions habitées vers Mars. Maintenant, du côté scientifique et de l'exploration, on continue tous les deux ans à envoyer des sondes vers Mars parce qu'on recherche des traces éventuelles de vivants passés ou présents sous la surface.
C'est fou de se dire que Mars est un terrain d'entraînement presque, quand je vous écoute.
Oui, en fait, la Lune, elle est accessible dans la décennie qui vient, alors que les premiers humains qui partiront vers Mars, à mon avis, en étant vraiment le plus honnête possible intellectuellement, dans les années 30, on connaîtra peut-être le premier équipage qui ira vers Mars, peut-être qu'il ne se posera pas, parce que c'est très dur c'est le gap à franchir pour rajouter la descente à la surface et la remontée en orbite martienne, c'est énorme. Donc premier équipage vers Mars au milieu des années 30, une mission de plus de 2 ans, et puis peut-être dans les années 40, un premier équipage qui se pose, qui reste un an sur place et qui revient. Mais ce seront des missions très longues, avec pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, impossibilité de revenir d'urgence rapidement, ce qui n'a jamais été le cas depuis 60 ans, le vol de Gagarine. Il y a toujours eu un scénario disponible de retour d'urgence sur Terre, en quelques jours depuis la Lune, quelques heures depuis l'orbite terrestre. Et puis les astronautes ne pourront plus converser avec la Terre et puis ne la verront plus pour la première fois. Ce sera vraiment très différent pour les humains qui partiront.
Pour rappeler, Mars, il faut combien de temps à peu près pour y aller avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui?
C'est typiquement 8 mois, tous les 2 ans et 2 mois. Il y a une position relative des planètes dans leur parcours autour du Soleil, de la Terre et de Mars, qui rend le trajet de l'ordre de 8 mois. Alors parfois c'est plutôt 6, parfois c'est 10, mais c'est en moyenne 8 mois. Donc on a lancé en juillet, début août, 3 sondes depuis la Terre, qui vont arriver courant février-mars.
Ça aurait été votre rêve, Jean-François Clairvoy, de pouvoir aller vers Mars et sur Mars peut-être?
Pour un astronaute, poser le pied sur un autre corps céleste, c'est le Graal. Quand on parle aux marcheurs lunaires, il en reste encore 4 en vie sur les 12 qui ont marché sur la Lune. La plupart d'ailleurs l'ont fait qu'une fois, dont certains sur leur seule mission spatiale. Ça reste mythique parce que vous appartenez à un autre corps céleste que la Terre. Mmh. Quand on est en orbite basse terrestre, vous voyez la Terre très proche, vous tournez autour, vous sentez qu'elle est là. Mais sur la Lune, vous appartenez à une autre gravité, le champ gravitationnel lunaire et puis un jour martien. Et puis c'est toujours dans la quête du savoir et de l'exploration, aller toujours plus loin, toujours plus haut, c'est le but.
Je vais vous poser une question bête, Jean-François Clairvoy. Vous êtes allé 3 fois dans l'espace. Est-ce que aujourd'hui encore, la nuit, vous en rêvez, comment ça se passe, quoi? Comment on vit avec ça?
Alors, on vit avec des souvenirs dans nos cases mémoire, visuelles, auditives, émotionnelles, partagées avec les collègues. Et parfois, quand je rêve, ou parfois quand je ferme les yeux, ou quand je regarde des photos, des films, j'ai des flashs qui me reviennent de mes missions spatiales. Et c'est très, très fort, c'est très puissant. Alors, lorsqu'on se retrouve entre collègues astronautes à des congrès, des réunions, des conférences d'astronautes, c'est toujours très émouvant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de repenser à des moments très forts vécus ensemble, ne serait-ce que la vue de la Terre, c'est très fort, c'est très beau, c'est sur fond noir, vide du cosmos, on voit pas les étoiles si on n'éteint pas toutes les lumières dans le cockpit, et le fait de le partager à plusieurs, ça le rend encore plus fort. Et bien sûr, on rêve d'y retourner tous. Mais l'année qui va venir va être très importante aussi en vol habité, puisque on a deux astronautes européens qui partent dans l'espace. On a le bras robotique européen qui va partir sur un module russe vers la station spatiale internationale. Les Chinois vont commencer à lancer les éléments de leur première station. L'Europe va lancer avec Ariane le plus grand télescope spatial existant à ce jour, le fameux James Webb Space Telescope, qui, on l'appelle le successeur de Hubble, qui va être encore à plus haute résolution, donc qui va voir encore plus précisément les exoplanètes, par exemple. Et puis la capsule Orion qui va transporter des astronautes vers la Lune à partir de 2023 va faire son premier vol inhabité l'année prochaine avec un module de ressources qui est fourni par l'Europe. Donc l'Europe est toujours très très présente au plus haut niveau dans l'espace.
Et nous, quand est-ce qu'on pourra aller dans l'espace pour pas trop cher, j'allais dire, quand est-ce qu'on pourra se payer un voyage dans l'espace?
Alors vous avez quatre niveaux de tourisme spatial, entre guillemets, pour quelques centaines de millions de dollars, vous faites le tour de la Lune. Pour quelques dizaines de millions de dollars, vous passez une semaine dans l'ISS, il y en a 7 qui l'ont fait à ce jour. Pour quelques centaines de milliers seulement, si je puis dire, de dollars, eh bien vous passez 5 à 6 minutes dans l'espace, et les deux vaisseaux qui vont permettre cela vont faire leur premier vol avec des passagers payants cette année. C'est le Spaceship 2 de Virgin Galactic et le New Shepard de Blue Origin de Jeff Bezos. Et pour quelques milliers d'euros, eh bien vous pouvez vivre la vraie apesanteur dans notre avion R0G basé à Bordeaux.
Thomas Pesquet va y retourner dans l'espace l'année prochaine. Quand vous le voyez partir, ça vous fait quoi?
Ben on est fiers d'avoir sélectionné les nouvelles générations. J'étais dans le jury de la sélection de son nouveau groupe, ainsi que Matthias Maurer, l'Allemand de sa promotion, qui lui prendra le témoin à l'automne. Bien sûr, on est fiers parce que l'Europe, et la France en particulier avec Thomas, est très bien représentée. Tant qu'on n'a pas notre propre système de transport spatial d'astronautes depuis notre propre base de Kourou avec notre propre lanceur, eh bien, au moins, on a des astronautes de nos nationalités européennes qui volent dans l'espace, qui font un travail reconnu de très haute qualité par nos partenaires, et peut-être qu'un jour, on aura nos propres moyens de transport. Et puis, je serai toujours présent. J'ai un collègue de promotion de mon groupe 14 de la NASA qui décollera peut-être avec Tom Cruise dans un an. Il a exactement le même âge que moi, donc ça me donne espoir.
Ah oui, vous aimeriez y retourner ?
Ah ben oui, vous savez, il n'y a pas un astronaute à qui vous proposez un billet de retourner dans l'espace qui vous le refusera.
Il faut demander à Tom Cruise maintenant, on en est réduit à ça.
Alors, il s'est entraîné dans notre avion, l'avion R0G à Bordeaux. C'était ultra secret, donc on n'a pas communiqué dessus à l'époque. Mais il est prêt, il maîtrise bien la pesanteur et je suis sûr qu'il sera très performant dans la station.
Voilà, faut rappeler qu'il va y tourner un film.
Alors, ce sera en principe après que, je vous disais, le bras robotique européen qui est construit depuis plus de 10 ans va enfin rejoindre la station. On a déjà un bras robotique canadien, un bras robotique japonais. Il y aura un bras robotique européen qui permettra de faire beaucoup d'opérations complexes à l'extérieur sans avoir besoin de faire sortir les astronautes en scaphandre. Ce qui reste toujours un peu plus risqué comme activité.
On a beaucoup dit là au moment de ces confinements qu'on vivait un peu ce que vous pouviez vivre justement dans l'espace ou dans les stations spatiales, c'est-à-dire le fait d'être enfermé en vase clos, évidemment avec la vue en moins, mais est-ce que vous avez retrouvé en partie ces sensations-là, Jean-François Clairvaux, ou pas du tout ?
Alors, sur les sensations, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur la façon de le gérer, oui. Parce que nous, le confinement, il est totalement étanche. Alors que nous, notre confinement, on peut sortir tous les jours. Et nous, notre confinement, il est adapté à la durée, au nombre de personnes, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque des personnes se trouvaient très nombreuses dans des tout petits appartements sans balcon. Et puis surtout, nous, on y est préparés. Et on est heureux d'être dans ce confinement parce qu'on se sent protégé du milieu extérieur qu'on sait être très hostile. Donc c'est la grande différence. Nous sommes préparés alors que là personne n'était préparé. Par contre, la façon de l'organiser, c'est la même chose. Il faut savoir faire l'inventaire des ressources dans le, j'allais dire, à bord de notre logement, et puis s'organiser dans le temps, se définir un planning chaque jour de ce qu'on va faire, et s'organiser aussi dans l'espace, parce que lorsqu'on reste très longtemps au même endroit, ça devient très rapidement le désordre si vous n'êtes pas très bien organisé. Voilà, mais ce qui est important aussi, c'est de rester proche par le téléphone avec ceux qui sont à distance, ceux qui sont moins favorisés que vous, qui n'ont pas de jardin ou pas de balcon. Donc, se tenir informé et rester en contact avec ses proches.
Merci beaucoup, Jean-François Clairvoy, astronaute, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Voilà, ce 25 décembre, on voulait un petit peu regarder vers l'avenir, regarder vers les étoiles, et vous nous y avez aidé. Merci beaucoup.
Oui, comme disait mon ami Spock, live long and prosper and safe. Voilà, vivez longtemps en prospérité et en sécurité.
Merci à vous.